Mémo audio, une mémoire sonore.
Arrivés en haut de la côte, les deux marcheurs soufflèrent un instant. Ils étaient partis tôt ce matin-là, à l'heure où la nuit et sa fraîcheur ne s'avouaient pas encore vaincues par la fournaise. Les étoiles scintillaient. La nuit exhalait des arômes de thym, de menthe. Dans l'étang tout proche, les grenouilles coassaient, avant de céder la place au premier violon de l'été, les cigales. Ils profitaient d'autant plus de cette fraîcheur qu'ils savaient ce qui les attendait. Les rocailles de la Sainte-Baume. Ils étaient arrivés au bas de l'escalier qui mène au sanctuaire. À la grande surprise du Brestois, le Provençal obliqua à droite vers une sente parfumée qui se devinait à peine au milieu des buis. Les deux amis sentaient leur corps s'échauffer, l'effort conjugué au soleil qui montait. Plus ils avançaient, plus la végétation se faisait clairsemée, laissant le blanc du calcaire à nu. Des cailloux polis roulaient sous leurs chaussures. Les arêtes auxquelles ils s'agrippaient dans un dernier effort devenaient brûlantes. Et soudain, le sommet se découvrit. Blanc de lumière, éblouissant comme un miroir, à perte de vue, des rocs éparpillés, des arbustes desséchés, poussiéreux, et là-bas, au loin, un troupeau de chèvres qui broutait l'herbe sèche près de la petite chapelle qui domine le vide. Paysage incroyable. À leurs pieds, la plaine, parsemée de vignes et de cyprès, ça et là un mas minuscule, abrité sous de larges platanes. Plus loin, vers l'est, le canal de Provence coupait l'horizon de son courant trop lent. Et comme un enfant au pied de sa mère, la colline de Rougier, couronnée de son château en ruine, relevait son front de pierre sous le soleil ardent. Émerveillé, le Breton se demandait cependant si ce panorama à couper le souffle était bien la seule raison de cette entorse à leur programme. Jean ne lui avait pas expliqué le but de cette escapade. Laissant son regard se perdre dans l'immensité, il avait peu à peu tourné sur lui-même et se trouvait maintenant face au sud. Et là, soudain, Raoul comprit. Là-bas. Là-bas, ce ruissellement de lumière, cette cascade de scintillements. La mer. La mer, la Méditerranée. C'était donc ça. Le skipper lui faisait découvrir sa mer à lui. Loin de l'agitation de la côte. Depuis cette barre rocheuse, la vue se perdait jusqu'à la courbe de l'horizon qui s'était si souvent dressée devant eux, menaçante, mais irrésistible, comme un appel à une liberté d'autant plus fascinante qu'elle est dangereuse. Bien sûr, les nouvelles technologies leur apportaient une tranquillité que n'avaient pas connue leurs prédécesseurs, mais il restait toujours l'appel du large, l'inconnu, toujours changeant, de la plaine liquide. Jean et Raoul étaient alors en pleine préparation de la plus grande course en solitaire, le Vendée Globe, qui devait avoir lieu dans 2 ans, en 2052. Une cinquantaine de marins à l'assaut de Poséidon. 3 océans, 3 caps, une valse de 3 mois qu'ils danseraient avec les éléments. Les mers du sud. 40e rugissant, 50e hurlant et, surtout, le Cap Horn. 2 mots qui exercent toujours une fascination étrange sur ceux qui les prononcent. Qui sonnent à la fois comme un charybde repoussant les téméraires vers le Scylla de l'Antarctique et comme un défi à relever. Un de ces passages qui, tel une seconde naissance, font du marin un homme neuf. La chaleur se faisait de plus en plus lourde. Les deux amis contemplaient en silence le merveilleux chatoiement. Le Brestois sentait que les lieux où chacun d'entre eux avait grandi étaient des contrées extrêmes. Chaleur, omniprésence du ciel ici, bourrasque, tempête là-bas. Deux terres qui communient avec l'immensité des eaux qui les bordent. Leur passion commune pour la voile trouvait ses racines dans ce choc des éléments. Là où l'homme n'était qu'infiniment petit, entre vagues et vents. Juste un point entre deux infinis. Deux ans plus tard, par une froide matinée novembre, les deux amis quittaient le chenal des Sables d'Olonne. Comme la plupart des IMOCA de leurs concurrents, leurs bateaux étaient des bijoux de technologie. Leurs coques, recouvertes de téflon, d'une robustesse et d'une légèreté jamais vues, leur permettaient d'allier vitesse et résistance. Les expériences menées depuis des années sur les foils, ces ailes des voiliers, avaient permis de les rendre à la fois solides et efficaces. À cela s'ajoutaient évidemment des outils dernier cri pour faciliter la navigation. De la météo au routage, pas un domaine qui n'eût été pensé, repensé et amélioré. Des logiciels ultramodernes sommeillaient dans ces coques effilées, prêts à calculer, tracer, modéliser les imprévus les plus inopinés. Les journalistes avaient interviewé les marins une dernière fois. La gorge serrée, ils étaient montés sur leur voilier, sous les applaudissements de la foule et le regard humide de leur famille. À ces moments d'émotion avait succédé la concentration. Ils larguent peu à peu les amarres. La terre s'éloigne. Doucement, dans le claquement des voiles qui faseillent, les équipes techniques quittent maintenant le bord. Un dernier conseil, un dernier regard. Le Zodiac qui s'éloigne. Les voilà seuls. La ligne de départ se rapproche. 5, 4, 3, 2, 1... Ils sont partis. Les jours défilaient, amenant leur lot d'avaries, de contemplation, de lutte. Le cap de Bonne-Espérance leur ouvrit la porte de l'océan Indien. Ils s'étaient habitués au rythme particulier de la course au large. On peine à garder des horaires fixes en remontant un à un les fuseaux du temps. Les bateaux vibraient, grinçaient. Longues plaintes du voilier qui accélère. Au passage du Cap Horn, une tempête dantesque les prit par surprise. Le dernier message reçu de Jean était « Bateau cassé en deux, je coule. Mayday. Mayday. » Malgré des heures de recherche fiévreuse, d'angoisse, malgré l'aide d'une frégate de la marine nationale, Raoul et les autres marins détournés ne retrouvèrent aucune trace de Jean, ni de son bateau. Même les plus puissants des algorithmes ne peuvent maîtriser l'incommensurable. Dans le chenal où l'acclamait la foule, Raoul ne pouvait retenir ses larmes. Là-bas, une couronne de thym et de romarin dérivait lentement sur les eaux apaisées. Elle emportait au large l'adieu parfumé d'une terre de lumière à son enfant. Son enfant qui n'arpenterait plus jamais les collines écrasées de soleil.
Même audio, une mémoire sonore.